11h tout pile sur Radio Campus Tours. Chers auditeurs, si vous voulez écouter la suite de l'échange de Marie avec les étudiants Relais Santé, eh bien, je vous invite à vous rendre sur notre site www.radiocampustours.com. Et pour l'heure, dans la Méridienne, nous allons parler d'art, art visuel, puisque j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Carmen Blin. Bonjour Carmen.
Bonjour.
Alors, vous êtes coordinatrice du réseau régional des arts visuels de Venir Art. Alors, tout d'abord, en quoi ça consiste ce réseau ?
Alors, ce réseau, c'est un réseau qui rassemble des professionnels du monde des arts visuels, comme son nom l'indique. Donc, art contemporain, art plastique, on pourrait donner d'autres termes, et voilà, élargi à tout un tas d'autres disciplines, les graphistes, les métiers d'art, tels que les céramistes, etc. Et donc, ce réseau, il rassemble aujourd'hui quasiment 140 membres. Répartis sur toute la région, et le but c'est de les fédérer, d'accompagner leur montée en compétences et d'encourager les coopérations et synergies entre tous ces professionnels.
Alors c'est un réseau, comme on peut lire sur votre site, au service des artistes plasticiens. Alors peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers de l'art contemporain, est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ces plasticiens ? Ça regroupe quelles disciplines ? Vous en avez déjà cité certaines, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Par exemple, c'est quoi les arts visuels ? Qu'est-ce qui est compris dans les arts visuels ?
Alors, ça va être assez large, les arts visuels. Aujourd'hui, en plus, on peut le dire plus que jamais, c'est vrai qu'il y a une grande porosité entre les disciplines. Donc, un artiste plasticien, il peut aussi bien travailler la matière sonore que des dispositifs d'installation, la vidéo, son corps avec la performance, mais aussi des techniques qu'on pourrait, auxquelles on pourrait penser plus facilement, hein, la peinture, la sculpture, la céramique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est un champ qui est assez large, qui peut même aller jusqu'à l'architecture. Alors là, on ne parlera pas forcément des architectes comme des artistes plasticiens. Par contre, il y a des architectes qui font des recherches qui entrent dans le champ des arts visuels. On peut notamment penser au Fonds régional d'art contemporain, hein, qui collectionne dans ses collections des travaux d'architectes. Voilà, c'est un petit peu toutes ces professions qui sont regroupées, les illustrateurs, les dessinateurs, je pourrais en citer encore de nombreux qui utilisent des disciplines différentes pour leur recherche plastique.
On peut inclure les graphistes, par exemple ?
Oui, 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 totalement. Leurs problématiques, peut-être en tant que dans leur métier, vont être différentes de celles des artistes plasticiens, mais ils appartiennent complètement au champ des arts visuels. Ils ont un statut aussi qui les rapproche des artistes auteurs, c'est des auteurs, mais voilà, dans la gestion de leur activité ou les relations qu'ils vont pouvoir avoir, par exemple avec des partenaires, ça va être un petit peu des modalités différentes, donc il faut prendre en considération ces spécificités pour les accompagner ou en tout cas pour comprendre leurs besoins, les modalités de leurs actions, mais effectivement ils sont complètement intégrés au champ des arts visuels.
Alors je continue ma liste, voilà, mon inventaire à travers. Et alors, qu'en est-il des auteurs de bandes dessinées ? Là, ça semble très visuel aussi.
Oui, complètement. Alors, les auteurs de bandes dessinées, c'est vrai qu'ils ont des problématiques spécifiques au sens où ils sont rapprochés plus du domaine du livre. En tout cas, ils travaillent avec des éditeurs. Nous, les éditeurs font en partie, en tout cas, il y a certains éditeurs qui vont être inclus dans le champ des arts visuels. En région, on a peu d'éditeurs de bandes dessinées. On va dire que c'est peut-être un des domaines qu'on travaille le moins, mais on pourrait effectivement les rapprocher de notre secteur d'activité, si on peut l'appeler comme ça. Mais c'est vrai qu'ils sont plus quand même rattachés au domaine du livre. Je vais parler ultra juridique et technique, mais en gros, lorsqu'on est un auteur de bande dessinée, et je voudrais pas dire de bêtises parce que c'est pas du tout un milieu dont je suis spécialiste, mais on va travailler avec des éditeurs, et bien souvent ces éditeurs peuvent nous rémunérer directement et uniquement en droit d'auteur, ce qui fait qu'on déclare ses revenus de manière assez différente des artistes auteurs plasticiens. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre ces activités, j'ai envie de dire sur un plan plus juridique, fiscal, social. Après, pour le grand public, la manière de recevoir ce travail est beaucoup plus poreuse. J'ai envie de résumer ça comme ça.
Et alors, une petite dernière catégorie, le cinéma expérimental. Donc, lui, je le cite parce qu'on en voit exposer, si on peut dire, ou en tout cas montrer dans des musées, ça arrive. Donc, du coup, lui, où est-ce qu'on est ?
Bah, totalement, c'est là où je parlais de porosité entre les techniques, les disciplines, les outils plastiques de recherche. Et là, à ce titre, notre coprésidente, donc on a trois coprésidents dans l'association, et l'une d'elles n'est autre qu'Isabelle Carlier, qui a été longtemps la directrice de l'association Bandimage, qui travaille le cinéma expérimental et qui aujourd'hui est la codirectrice de l'entrepôt, donc un lieu pluridisciplinaire à Bourges. Et effectivement, le cinéma expérimental fait totalement partie des arts visuels.
Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur les autres membres de ce bureau ? Parce qu'on a compris que c'était un gros bureau, si on peut dire. Donc, est-ce que vous voulez nous les présenter ?
Alors, effectivement, c'est vrai que l'association, qui a été créée il y a 4 ans, avait vraiment pour objectif de fonctionner sur un modèle horizontal, de mettre tous les professionnels, on va dire, des arts visuels sur un plan d'égalité. Et ça doit se retrouver dans le conseil d'administration et dans le bureau. Donc, les rôles sont très partagés entre des représentants de structures, donc comme Isabelle Carlier, là je l'ai citée, notre coprésidente qui est codirectrice de l'entrepôt à Bourges, des indépendants ou des individuels, des personnes physiques pour leur titre en tant qu'adhérent, donc des artistes, des commissaires. Donc on a un coprésident qui s'appelle Gunther Ludwig, qui est commissaire d'exposition, enseignant à l'ESAD à Orléans, une coprésidente qui représente plus les artistes, donc Emmanuelle Loire, une artiste plasticienne basée à Vendôme et graphiste aussi, elle a une double casquette. Et puis des représentants aussi de structures de toutes dimensions. Hein. Dans notre bureau, on a un secrétaire qui est donc président d'une association qui s'appelle Singularité, qui organise un parcours d'art contemporain dans des granges pyramidales dans le Cher qui s'appelle Allons voir. La directrice et chef du service art contemporain de la ville de Dreux est notre co-trésorière, et on a un autre artiste comme co-trésorier. Donc voilà, une palette de professions, d'activités assez large représentée dans notre bureau et dans notre CA plus largement.
Alors, peut-être un mot aussi sur ces autres métiers, voilà, des gens qui sont peut-être artistes plus autre chose. Vous avez mentionné, par exemple, un commissaire d'exposition. Alors, quel est le travail d'un commissaire d'exposition ?
Alors, un commissaire d'exposition, bien souvent, il vient accompagner un des artistes dans la production d'une exposition, mais plus largement apporter un regard sur leur travail pour pouvoir le présenter au public. Il est bien souvent aussi le corollaire de cet accompagnement, c'est qu'il va entrer en médiation. En tout cas, il va accompagner l'artiste dans sa relation au lieu d'exposition, mais à d'autres lieux où est-ce qu'il pourrait être actif. Donc il va l'accompagner sur le plan esthétique. Comment est-ce que ces œuvres, quelles œuvres vont être présentées, mais aussi sur le plan administratif, bien souvent, ils ont une casquette de coordination de projet, hein, c'est-à-dire qu'ils vont penser ce... Alors, si on prend le cas d'un projet d'exposition, hein, puisque c'est la majorité des projets sur lesquels ils vont travailler, c'est penser la temporalité de la création de ce projet d'exposition. Combien de temps est-ce qu'à l'avance, est-ce qu'on choisit les œuvres ? Est-ce qu'on valide la liste ? S'il y a des œuvres qui sont dans le studio de l'artiste, dans son atelier, d'autres dans sa galerie, s'il en a une, chez des collectionneurs privés, publics, rassembler la liste d'œuvres, c'est une grosse partie du travail ensuite. Formel, puis aussi avoir budgétairement comment est-ce que ça se réalise, quels moyens de communication, quels partenaires aussi. Bien souvent, le commissaire connaît très bien le travail de l'artiste et il va savoir aussi avec quelle structure est-ce qu'on va pouvoir organiser ce projet. Donc, il est vraiment là pour faire l'interface avec tout un tas de partenaires du projet d'exposition et l'artiste.
Est-ce que c'est la même chose que curateur ?
Oui, alors c'est vrai que le terme commissaire d'exposition est plutôt très francophone. Curateur, ça vient du terme anglais, hein, qui a été francisé. Curateur, curatrice, faire la curation, c'est des termes qu'on emploie peut-être plus, en tout cas qui ont pris le pas sur ces termes de commissaire d'exposition depuis quelques années, mais c'est un métier qui est quand même similaire.
Alors dans ce réseau, est-ce qu'il y a d'autres personnes? On peut penser par exemple à des maîtres de conférences en histoire de l'art, aux médiateurs présents dans les structures. Est-ce que ces métiers-là aussi sont représentés dans le réseau, ou alors comment vous travaillez avec eux?
Alors pour certains, ils sont représentés dans le réseau, hein. On a des personnes qui sont justement enseignantes ou maîtres de conférences qui sont membres. Le travail avec ces personnes, il se fait de la même manière, j'ai envie de dire, qu'avec les artistes, s'ils sont salariés de structure ou s'ils sont plus dans une activité qu'on va qualifier d'indépendante, c'est comprendre les besoins de leur activité, comprendre les synergies avec lesquelles pourraient s'opérer des rencontres avec d'autres membres du réseau ou d'autres personnes extérieures. C'est vrai que le réseau a une particularité assez forte, on va dire, c'est que depuis sa création, sont vraiment réfléchies les modalités de rencontres avec d'autres secteurs d'activité, ou en tout cas tous les lieux et tous les espaces, toutes les personnes avec lesquelles ont des relations, les membres de notre réseau ou plus largement les professionnels des arts visuels, le monde socio-économique, entreprise, le monde médical, de l'éducation bien évidemment. Voilà, c'est tout un tas de secteurs avec lesquels on travaille, et ces personnes, les médiateurs, les maîtres de conférences, voilà, elles ont une action, ou en tout cas des actions, des activités avec ces milieux, et c'est rendre ces actions plus, en tout cas accompagner leur développement, leur permettre de rencontrer ces milieux, de trouver des outils méthodologiques pour travailler avec eux, etc.
Donc, c'est-à-dire que comment ça se passe? Vous mettez en place des rencontres professionnelles, par exemple? Comment ça marche?
Alors en fait, le réseau fonctionne déjà en interne avec des commissions transversale. Donc c'est des commissions de travail, hein, où une thématique a été donnée. C'est une thématique généralement qui doit avoir un rayonnement régional et qui doit traverser les problématiques de plusieurs métiers. Donc c'est pas simplement des artistes qui réfléchissent à leurs problématiques d'artistes ou des personnes de Bourges qui réfléchissent aux problématiques du milieu de l'art à Bourges. Donc on a par exemple une commission qui a travaillé sur notre charte et notre référentiel de rémunération. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. On a une commission au long cours aussi qui réfléchit à comment favoriser la présence d'artistes dans d'autres milieux que celui des arts visuels ou de l'art contemporain. Et là, bien évidemment, les médiateurs ont un rôle à jouer. C'est eux qui, bien souvent, vont construire des projets de territoire avec des partenaires autour d'eux. C'est eux qui vont aussi, bien souvent, au sein d'une structure ou en accompagnement d'un artiste, venir écrire peut-être un projet d'éducation artistique et culturelle. Donc c'est en ce sens qu'ils sont intégrés ou qui vont être partie prenante des actions du réseau.
Est-ce que c'est un lieu de formation aussi, le réseau Devenir Art, justement pour ces médiateurs, par exemple, pour inventer des outils de médiation, pour apprendre à parler de tel artiste, de tel...
Alors, le réseau n'est pas un organisme de formation. Déjà, ça, c'est une chose. Il y a des membres de notre réseau qui le sont. Je pense par exemple à Ecopia, qui est présente très fortement sur l'agglomération Tourangelle et qui propose des formations à destination des médiateurs. Donc, c'est des gens avec lesquels on réfléchit, on travaille. Les médiateurs, on pourrait les accompagner sur un certain nombre de mises en relation, par exemple, avec des structures s'ils ne les connaissaient pas, telles que Black et le réseau national des professionnels de la médiation. Nous, on ne va pas venir leur proposer des dispositifs de formation. Par contre, on diffuse un certain nombre de ressources qui pourraient les intéresser. Une appel d'offres pour des médiateurs, un appel à candidature sur un projet de médiation, des outils nouveaux, l'adhésion au réseau BLA qui se réouvre et qui peut les intéresser pour justement monter en compétences. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on intervient. On n'est pas là pour faire à la place de nos membres, notamment l'organisme de formation, mais plutôt pour qu'ils s'identifient bien les uns avec les autres et qu'ils puissent bénéficier des dispositifs qui existent déjà, tels qu'une formation.
Et alors, un autre métier dont on n'a pas encore parlé, ou peut-être un peu, c'est le métier de critique d'art. Alors, justement, là, c'est un métier qui souvent est mal compris par les personnes qui ne sont pas familières de l'art contemporain. Est-ce que vous voulez nous expliquer c'est quoi le travail d'un critique d'art ?
Alors, le travail d'un critique, bien souvent, déjà, c'est d'écrire. Alors, un critique, ce qui est très intéressant quand même pour les artistes, c'est qu'il peut écrire un texte sur leur recherche, ce qui permet de donner une visibilité autre à leur travail, de creuser, approfondir, avoir un regard plus, approfondi sur ce travail pour pouvoir en parler, pour pouvoir le rendre plus accessible peut-être. Accessible à qui ? On peut penser au public, mais le critique, il a vraiment aussi un apport dans l'écosystème, j'ai envie de dire, des arts visuels. C'est-à-dire qu'un texte sur le travail d'un artiste, il va pouvoir être utilisé dans son portfolio, sur son site internet ou être lu dans une revue par un diffuseur, par un directeur de centre d'art ou une directrice, par un ou une curatrice ou un commissaire, et qui va avoir potentiellement envie d'en savoir plus sur ce travail, de rencontrer l'artiste et peut-être de travailler avec lui à l'avenir. Donc le texte, il est extrêmement important pour les artistes. Et c'est bien souvent, du coup, à rebours de la manière dont on voit le travail du critique qui va dire qui est adoubé, qui ne l'est pas, qui va venir potentiellement poser des mots durs sur une exposition ou sur un travail qui pourrait avoir des effets un petit peu difficiles pour cet artiste. Mais c'est vrai que je pense qu'on a une image un petit peu... dualiste, j'ai envie de dire, du métier de critique qui vient dire ce qu'il faut aller voir ou ne pas voir, alors qu'il y a vraiment aussi un travail comme ça, une relation de proximité, de compréhension fine du travail d'un artiste et de restitution dans un texte qui est bien souvent peut-être pas perçu directement par le très grand public.
Vous avez mentionné Carmen Blin, un référentiel de rémunération. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Peut-être voulez-vous nous dire pourquoi vous avez eu besoin d'établir un référentiel de rémunération pour les artistes ?
Alors, on a un tout petit peu abordé ces questions de statut d'artiste-auteur. Déjà, on parle des artistes-auteurs. Ces artistes-auteurs, ils sont rémunérés pas parce qu'ils sont artistes, mais parce qu'ils exercent des activités qui rentrent dans cette catégorie. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte légal dans le droit du travail ou dans le droit de la propriété intellectuelle qui vient poser un barème de rémunération. Il y en a plusieurs qui existent. L'Association de développement des centres d'art, donc DCA, et le ministère de la Culture avaient travaillé sur un référentiel qui existe depuis quelques années déjà. D'autres réseaux ont travaillé sur des référentiels de rémunération, notamment celui de Astre, qui est le réseau art visuel en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, il y a des réseaux à l'international qui ont travaillé sur ces questions, des syndicats, notamment le CAP, le comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs, qui fait un travail de fond sur ces questions de statut, de rémunération, de droit des artistes-auteurs. Donc on s'est appuyé un petit peu sur leurs travaux. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de grille, comme par exemple les conventions collectives imposent une grille de rémunération en fonction du métier aux salariés qui dépendent de cette grille. Il n'y a pas de montants qui sont légaux. Donc le but, c'était d'avoir un travail qui permette de faire un travail de pédagogie auprès des acteurs, de sensibilisation au fait que aujourd'hui les artistes ne vivent plus de la vente de leurs œuvres, mais de l'exercice d'un certain nombre d'activités. Donc on pourrait penser que l'activité de création doit aussi être rémunérée. Nous, on s'est déjà attaqué à ce qui est les activités qui rentrent dans le statut artiste-auteur comme rémunératrice par le biais de la cession de droit d'exposition, donc la cession de droit de représentation légalement. La cession de droit de reproduction a déjà des barèmes qui existent notamment chez les organismes de gestion collective de leurs droits. Et puis toutes les activités qui vont être celles de la résidence, la mise en place d'ateliers de pratiques artistiques. On a réfléchi aussi, les membres de la commission ont réfléchi à la présence d'artistes sur des temps tels que les temps de vernissage. On est un professionnel, on vient au vernissage de son exposition. Ça fait partie du temps travaillé, comme un salarié de la structure qui va être présent pour le vernissage. Elle est considérée comme travaillant à ce moment-là. Et puis, bien évidemment, tout ce qui va être les débats, les conférences, la participation à un colloque, où on va produire une présentation, ou en tout cas, on va participer à un temps de débat et d'échange qu'on aura préparé en amont. Ça va un petit peu venir dire que toutes ces activités, c'est ça qui fait le revenu d'un artiste. Et elles n'ont pas de dispositif légal avec des montants, mais travailler à un horizon à atteindre, nous, c'est ce qu'on a plutôt essayé de faire, c'est-à-dire de dire les projets en art visuel sont bien souvent fragiles, les structures ont des moyens qui sont relativement fragiles et précaires en regard d'autres secteurs de la culture. Qu'est-ce que ça coûte, en fait, réellement, un projet en art? Comment est-ce qu'on rémunère un artiste? C'est aussi dire, aujourd'hui, s'il n'est pas rémunéré, c'est qu'il porte en partie le risque lié à l'exposition qui va être mise en œuvre et dans laquelle il est présenté, à la résidence à laquelle il participe. Et du coup, c'est visibiliser ce temps qui est accordé, ce temps qui est donné par l'artiste pour que le projet existe, qui ne pourrait pas exister sans son intervention, et essayer de donner un montant qui permettrait à la structure comme à l'artiste de travailler dans une économie moins précaire.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a des structures, hein, alors l'idée, c'est pas de dénoncer qui que ce soit, mais qui pensent qui ne rémunèrent pas un artiste pour exposer son travail, parce qu'ils pensent on vous donne de la visibilité, alors on va pas vous rémunérer en plus.
Alors, on peut le prendre de plein de manières. Ça existe encore, cette question de la visibilité offerte par un dispositif d'exposition, par un dispositif de résidence, par un dispositif de pratique artistique ou autre. Il y a encore du travail à faire là-dessus, pas forcément uniquement, en tout cas dans le champ des arts visuels. En fait, ce qu'on oublie bien souvent, c'est qu'un artiste, il n'expose pas juste dans des centres d'art. Bien souvent, il est impliqué dans des projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éducation artistique et culturelle, ou alors il va travailler avec des personnes dont ce n'est pas le métier premier ou dont la structure ne porte pas pour projet de faire des expositions. Et donc le travail, il est à faire notamment auprès des collectivités territoriales, auprès de porteurs de projets privés. Bien souvent aussi, les structures, elles ont peu de moyens pour rémunérer les artistes, et c'est pas pour autant qu'elles ne le font pas. On a des toutes petites structures qui sont entièrement gérées par des bénévoles, qui produisent à intervalles plus ou moins réguliers des projets avec des artistes qui les rémunèrent. Mais ces structures, elles ont notamment besoin, même pour les plus grosses, pour des structures qui ont des salariés, pour des structures qui ont des projets pérennes et qui ont des projets d'activité avec des expositions régulières. C'est un moyen, ce référentiel, de pouvoir dialoguer notamment avec les subventionneurs sur le pourquoi du comment d'un budget qui augmente, le pourquoi du comment d'un budget qui a une ligne de rémunération importante. C'est donner de la visibilité à ces moyens nécessaires, autant pour les structures que pour les artistes, ce référentiel.
Et alors, est-ce qu'on peut dire aussi que une partie, si oui, laquelle, des artistes visuels vit dans une certaine précarité?
Je suis nulle en chiffres et je les oublie beaucoup trop souvent et je les ai mal préparés. Mais en tout cas, on sait que une large majorité des artistes vivent avec le RSA. Donc déjà, c'est dire qu'il y a une profession dont les revenus reposent sur le revenu de solidarité active alors qu'ils ont une activité. Qui occupe une large part de leur temps pour de la recherche et création, pour de la diffusion, pour des ateliers, comme je l'ai dit, avec du public. Donc ça, c'est un réel problème auquel il faut s'attaquer. C'est pas notre réseau qui va pouvoir régler ça. On parle d'un problème national, on parle d'un problème qui relève de décisions politiques à un niveau qui n'est pas celui de la région centre. Mais effectivement, il y a une large part des artistes qui ne vivent pas de leur travail.
Alors avant de faire une première pause musicale, Carmen Blin, est-ce que vous voulez juste peut-être préciser en quoi ça consiste une session de droit de reproduction, droit de présentation ? Enfin, vous avez évoqué plusieurs sessions de droit. Donc pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers, est-ce que vous voulez nous
en... La session de droit de représentation, elle vient, elle s'applique en tout cas dans le cadre du prêt ou de la monstration d'une œuvre. Donc pas d'œuvre, pas de session de droit. voilà, la représentation, c'est le fait de présenter une œuvre. Donc ça peut être un tableau accroché dans une exposition, une performance présentée sur un festival en ligne, une sculpture qui est présentée dans le domaine public, en tout cas en espace public. La cession de droit de reproduction, elle vient rémunérer la présentation de cette œuvre dans une plaquette de communication, un visuel de cette œuvre qui pourrait être présenté sur un site internet, je ne sais pas, une ville qui décide demain que sa prochaine campagne de communication auprès avec l'office de tourisme elle présente une œuvre d'un artiste. Là, on est dans la cession de droit de reproduction. L'œuvre n'est pas présentée stricto sensu. Par contre, il y a une image de cette œuvre qui est présentée. Et voilà pourquoi on cède des droits. Alors, on cède uniquement les droits patrimoniaux. Donc, ça veut dire qu'on cède pour un temps donné, pour une utilisation limitée, pour une zone géographique bien définie, l'exploitation en fait, de cette image ou de cette œuvre. Voilà.
Est-ce que les artistes sont bien au fait de toutes ces choses ?
Bien souvent, on entend des, notamment, ça, en tout cas, ça marque un manque d'information. Hein, mais la cession de droit de reproduction, on l'appelle souvent cession de droit d'exposition, le droit d'exposition. Voilà, c'est bien souvent pas le terme qui est employé dans le code de la propriété intellectuelle qui est utilisé. Les artistes savent que ces sessions existent, bien souvent ils ont une mauvaise information ou une sous-information sur la modalité dans lesquelles elles s'appliquent. La session de droit de représentation, notamment le fait que ça doit s'appliquer à un lieu, à une durée, à une utilisation, bien souvent c'est des choses qu'il faut rappeler. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à transmettre sur ces questions.
Est-ce que vous avez une hotline en cas de questions pour les artistes ? Est-ce qu'ils peuvent vous appeler si jamais...
Alors malheureusement, on n'est pas suffisamment nombreux à devenir pour avoir une hotline. On va bientôt avoir un bureau qui sera en centre-ville de Tours. Alors, en centre-ville, je pense que pour les Tourangeaux, ça va les heurter peut-être. Mais en tout cas, juste de l'autre côté du pont Wilson, place Choiseul, donc à partir de mai. Nos bureaux sont ouverts quand on est disponible. Après, il y a des hotlines qui existent, notamment le CAP. Moi, j'invite vraiment les artistes à aller sur leur site internet ou s'abonner à leur page Facebook. Donc le comité pluridisciplinaire des artistes auteurs propose une hotline tous les jeudis après-midi. Un seul numéro, vous pouvez laisser un message, vous pouvez appeler et si ça décroche pas, voilà, on vous rappellera. Et là, vous avez des informations et des réponses à vos questions sur des problématiques spécifiques à votre régime social, fiscal, juridique. Voilà, nous on distribue de l'information, en tout cas on diffuse de l'information sur notre site internet qui va être refondu et qui sera beaucoup plus compréhensible. On pourra trouver plus facilement les informations sur ces sujets.
Alors, puisque vous mentionnez la sécurité sociale, je vais diffère la pause musicale. Est-ce qu'il y a un régime particulier pour les artistes visuels ?
Bien sûr. Donc déjà, une grande chose qu'il faut comprendre, les artistes auteurs ouvrent des entreprises individuelles. C'est des entrepreneurs, c'est pas des indépendants. Ils sont pas sous le régime des indépendants, ils sont sous le régime général des salariés, ce qui peut paraître complètement loufoque ou en tout cas surprenant. Mais en tout cas, voilà, ils sont sous le régime général. Le volet social de leur activité est géré par l'URSSAF Limousin. Voilà, on va entrer dans des choses qui vont faire dresser les poils et peut-être pousser de l'urticaire sur les bras de certains. Donc l'URSSAF Limousin gère les cotisations sociales des artistes auteurs. Pour le volet fiscal, en tant qu'entreprise individuelle, c'est le service des impôts qui gère leur déclaration. Ça va être la saison. Voilà. Si c'était la question, ce que je pouvais en dire.
Voilà, donc on voit le côté implex des choses. Voilà, on est au-delà du complexe. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. On va écouter Luc Ferrari, tiens, pour se requinquer. Et on se retrouve après dans la Méridienne. Vous écoutez toujours Radio Campus Tours.
Venga, venga, que nos vamos. Et voilà, nous sommes de retour dans la Méridienne sur Radio Campus Tours. Alors, Carmen Blin, il semblait de bon ton quand même de préciser quelque chose supplémentaire, à savoir justement que les artistes n'ont pas droit au chômage et qu'il y a une complexité avec la CAF. Je vous laisse vous en dire plus.
Simplement, ce que je disais hors antenne, c'est qu'effectivement, par exemple, l'intermittence, qui n'est pas un statut, un régime, le régime de l'intermittence, bah, permet passer à un certain nombre d'heures, ou en tout cas de cachets cumulés, de débloquer des droits au chômage. Le régime social des artistes auteurs, lui, ne permet pas cela. En tout cas, il n'y a pas passé un certain nombre de montants, de revenus ou d'heures travaillées. Bien souvent, les heures sont... En tout cas, ce n'est pas sur l'heure que sont comptabilisées hein, les rémunérations des artistes qui permettraient voilà, de débloquer des droits au chômage. Ce qui fait que... voilà, j'expliquais tout à l'heure que quand les... Il y a un certain nombre d'artistes qui peuvent être au RSA. C'est bien souvent dû au fait que leurs revenus sont assez faibles et que de ce fait, ils se retrouvent, comme beaucoup de personnes, dans ce cas au RSA. Mais ça ne signifie pas en fait, qu'ils ne travaillent pas 35-40 heures, un certain nombre d'heures par semaine sur leur projet, soit dans des temps de recherche, soit dans des temps de production, de diffusion, d'exposition, etc. Et ce que je disais aussi, c'est que par contre, les artistes sont bien souvent dans une multi-activité qui les amène à avoir des revenus qui proviennent, ou en tout cas qui sont sous différents régimes. Je peux, par exemple, percevoir voilà, des sessions de droit de représentation, des honoraires pour une résidence, des honoraires pour la création d'une œuvre, etc. Et puis à côté être régisseur salarié d'une structure sur des périodes courtes hein, je sais pas, un montage qui dure 3 semaines, un contrat en CDD du même temps et puis avoir une activité plus alimentaire à côté et alimentaire ça peut tout et rien vouloir dire hein, ça peut être un métier totalement différent que celui de en tout cas qui rentre pas dans le champ de l'art ou un métier justement qui rentre dans le champ de l'art. Je suis médiateur à temps plein ou temps partiel, salarié mais voilà, donc j'ai un artiste voilà, peut cumuler, hein, une artiste un pléthore de revenus sous différents régimes, ce qui donne aussi une vision, en tout cas ce qui ne permet pas d'avoir une observation fine aussi de leur... De la structuration de leurs revenus. Y a pas mal de choses qui font que c'est assez complexe. D'une, les numéros de tirette et codes APE qui sont difficilement... traçable et puis aussi cette multi-activité qui rend peu lisible en fait les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Alors c'est aussi les arts, c'est aussi un peu le domaine des acronymes, hein, revenu au pays des acronymes. Alors je vais en citer 3 et je pense que vos éclairages sont les bienvenus. Alors je vais citer SODAVI, FRAP et KNAP. Alors qu'est-ce que vous voulez nous en dire? C'est quoi ces 3 choses?
Alors, le SODAVI, c'est un dispositif du ministère de la Culture. SODAVI, ça signifie schéma d'orientation pour le développement des arts visuels. C'est très important pour nous, puisque c'est de ce dispositif qu'est né le réseau. En tout cas, le réseau Devenir Art, voilà, on était une des dernières régions en France à ne pas avoir de réseau de professionnels. Je peux en citer plein à l'extérieur, c'est aussi des acronymes, donc ça va être drôle. Mais voilà, il y a beaucoup de régions, quasiment toutes les régions françaises avaient un réseau constitué principalement des réseaux rassemblant des structures, mais des réseaux rassemblant aussi voilà, des professionnels de l'art contemporain sur tous les territoires. Donc le SODAVI, le schéma d'orientation pour le développement des arts visuels, c'est un dispositif qui a été imaginé en 2014, mis en place à partir de 2015, imaginé par le ministère de la Culture, mais c'est un dispositif déconcentré. Donc je vais citer un autre acronyme, la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui est le relais du ministère de la Culture en région, qui avait donc pour mission de mettre en place ces schémas à l'échelle régionale sur leur territoire. Donc il y en a eu dans toutes les régions quasiment, il y en a encore en cours, il y en a qui démarrent, notamment dans les Outre-mer. La FRAP, c'est la Fédération des Réseaux et des Associations d'Artistes Plasticiens. Aussi un acronyme important pour nous puisqu'on est membre de la FRAP. Donc la FRAP, comme beaucoup de gens le pensent, c'est pas le réseau des artistes plasticiens, mais c'est le réseau des collectifs ou en tout cas des structures constituées par des artistes plasticiens, qui fait un travail très important de sensibilisation et de représentation pour ces professions et pour les structures qui les regroupent. Donc c'est une association. Et le troisième, donc le CNAP, qui est le Centre National des Arts Plastiques, donc là qui est un établissement de l'État qui agit au niveau national, comme son nom l'indique. Et le CNAP, il a une mission d'accompagnement et de ressources pour les professionnels du secteur. Il a une collection. Voilà, c'est un établissement national.
Et alors, comment vous, en tant que Devenir Art, vous travaillez avec ces différentes structures ?
Alors, le dispositif SODAVIS, c'est le réseau qu'il a mis en œuvre opérationnellement sur le territoire de la région Centre-Val-de-Loire de 2018 à 2020, en main dans la main avec la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val-de-Loire, et le Conseil régional de la région Centre. C'est une spécificité forte, hein. Toutes les régions ne sont pas mobilisées dans le cadre de ces dispositifs. Je parle des conseils régionaux, hein, de structures régions. Donc nous, on a un partenariat, ou en tout cas des relations assez étroites avec la DRAC et la région pour la mise en place du SODAVIS à travers un comité stratégique, hein, qui a rassemblé à part égale et à voix égale l'association Devenir Art, la DRAC et la région. La FRAP, donc comme je l'ai dit, on est membre, donc c'est un réseau avec lequel on travaille de manière assez fine, notamment parce que l'année dernière, on a mis en place nos rencontres régionales et donc les rencontres interassociatives qui ont plus de 20 ans de la FRAP en partenariat avec eux. Ça a donné lieu à 2 jours plus une demi-journée, 2 jours en visio et une demi-journée en présentiel à Saint-Pierre-des-Corps. De rencontres, débats autour de la question justement des outils dont se sont dotés les professionnels du secteur pour amener des pratiques plus vertueuses, que ce soit les chartes, les référentiels, etc. La FRAP a notamment été le premier réseau à se doter d'une charte il y a maintenant 15 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on travaille avec la FRAP, comme on travaille notamment avec le CIPAC, qui est la Fédération des professionnels de l'art contemporain, qui agit aussi à l'échelle nationale. On est membre de ces deux réseaux nationaux qui travaillent de concert sur un certain nombre de sujets et qui ont des périmètres d'action assez spécifiques l'un et l'autre. Mais voilà, et puis le CNAP, on les a notamment fait intervenir l'année dernière. Nous, on met en place, comme je l'ai dit, des dispositifs pour apporter de la ressource aux pros. Donc, on met en place des points d'info, notamment, environ tous les 4 mois. Et on avait fait intervenir le CNAP pour qu'il parle de ces dispositifs de soutien à l'attention, justement, des artistes, des chercheurs en art, donc critiques, commissaires, maîtres de conférences, théoriciens. Voilà, donc c'est aussi... le CNAP va bientôt être doté, notamment, d'une mission de centre ressources à l'échelle nationale, et nous on est aussi sur une mission de diffusion de la ressource à l'échelle régionale, donc voilà, on a un travail aussi en lien avec eux.
Voilà, alors auditeur, retiens bien, SODAVIS, FRAAP, voilà, avec 2 A, CNAP, CIPAC et CCCOD, voilà, ça fait une petite collection assez sympa d'acronymes. Alors aussi, vous travaillez sur le fait de permettre à différents lieux d'accueillir un artiste dans de bonnes conditions. Alors, ces lieux, c'est quoi? C'est des entreprises, des labos de recherche? Est-ce que c'est des lieux de vie, par exemple un EHPAD ou quelque chose comme ça? Comment ça se passe?
Tout à fait. C'est un petit peu tous ces lieux. Alors, les artistes travaillent déjà dans ces lieux. C'est vraiment, comme je l'ai dit, bien souvent pas forcément perçu par le grand public, ou en tout cas le public qui va être bénéficiaire de ces dispositifs ou programmes qui font intervenir des artistes. Donc on avait une commission, on a une commission en fait, elle est toujours active, qui travaille sur cette question de la présence d'artistes dans tous les milieux de la vie. L'idée, ça a été de, en tout cas ce qui leur a semblé judicieux de mettre en place, c'est une plaquette de sensibilisation qui vient montrer des expériences qui sont plutôt réussies en région. Donc dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de l'éducation, de l'entreprise, etc. Je pourrais en citer quelques-unes, hein, mais un projet qui a eu lieu il y a quelques années sur le chantier de l'autoroute qui avait été réaménagé à Tours par Vinci Autoroute. Mode d'emploi, qui est une structure d'accompagnement d'artistes et notamment de résidence, qui a travaillé avec Vinci, voilà, la création de dispositifs qui ont permis à 4 artistes d'intervenir sur ce chantier. Des dispositifs aussi dans le monde du patrimoine, comme je le disais, avec la Biennale ACT, un projet dans des lieux, notamment des maisons d'écrivains, des lieux du département de l'Indre-et-Loire, où sont intervenus, où ont été en résidence et ensuite sont intervenus sur des projets d'exposition des artistes par l'intermédiaire de la commissaire Anne-Laure Chamboissier. Des projets qui ont eu lieu dans des lycées, à Bourges, en lien avec la Transversale, une galerie dans un lycée lycée qui accompagne aussi des projets avec l'École nationale supérieure d'art de Bourges. Voilà. On a également valorisé un projet qui a eu lieu dans un EHPAD à Bracieux. Donc dans le 41, l'idée ça a été de montrer voilà, que un directeur d'EHPAD ou même une personne qui va être à l'animation ou au programme culturel à destination des personnes qui vivent dans l'EHPAD ou de leur famille vont pouvoir eux aussi, elles aussi, monter ce type de projet. Et donc après il y avait un certain nombre d'outils. Combien de temps il faut pour monter ce type de projet, des rétro-planning un peu type, comment et à quelle étape je valide quoi, comment est-ce que je m'entoure, et puis des outils plus méthodologiques, le référentiel de rémunération, des contrats types, des liens vers des structures qui pouvaient les accompagner. Donc voilà comment est-ce qu'on la commission a travaillé. Donc en construisant cette plaquette, et maintenant on va sur... différents départements organiser des temps de rencontre où on a des représentants de ces expériences, donc généralement un artiste et puis la personne qui l'a accueilli dans sa structure, qui vont partager leur expérience. Et là, on cible spécifiquement, grâce aux membres de notre commission, des gens qui pourraient être intéressés dans le monde de l'éducation, sur leur territoire. Donc on en a fait un, par exemple, un temps d'information à Nancy, donc là où il y a une station de radioastronomie qui a accueilli l'artiste Cyril Courte en résidence. Il y a eu un projet d'œuvre qui a été carrément développé et qui devrait se mettre en place prochainement. C'est un projet qui a duré 6 ans. Philippe Zarka, qui est astrophysicien, qui a travaillé avec l'artiste Cyril Courte, qui nous ont présenté à deux voix le projet, avec en plus personne qui est à la médiation au Pôle des Étoiles, qui a conduit du grand public, qui a été dans la boucle, qui présente le projet. On avait invité des gens qui sont sur le département du Cher, intéressés pour accueillir dans leur lycée, dans leur collège, dans leur entreprise, dans leur collectivité, des artistes pour développer des projets avec eux.
Alors, en fait d'outils utiles, est-ce que le 1% artistique a quelque chose à voir là-dedans ?
Totalement. C'est un projet, en tout cas c'est un dispositif mis en place par l'État il y a fort fort longtemps. L'objectif c'était d'amener l'art là où sont les citoyens, donc dans les lieux où ils travaillent, où ils enseignent, où ils étudient, dans les lieux où ils vont chercher des livres, comme les bibliothèques. Voilà. Le 1% c'est un dispositif obligatoire qui vise à ce que 1% d'un budget de construction, de projet de réaménagement d'un bâtiment public soit alloué à l'acquisition ou la création d'une œuvre. Donc un département, par exemple, qui est en charge des collèges, des bibliothèques, lorsqu'il en construit ou qu'il en réaménage une, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont programmés. 1% du budget doit être consacré à cette question. Pour une région, c'est les lycées qui dépendent de leur juridiction. C'est eux qui en sont les planificateurs. L'État, ça va être un tribunal. Voilà. Et donc, ce 1% est bien souvent pas forcément mis en place. En tout cas, en région, il avait été à l'arrêt pendant quelques temps. Là, la région est très volontariste et il y a notamment plusieurs gros projets de lycées qui sont dans les tuyaux, qui vont bénéficier de ce dispositif. Mais voilà, c'est vrai que c'est des espaces où les artistes interviennent, où on n'est pas sur des lieux d'exposition, on est sur des lieux où vont vaquer les citoyens et où ils vont pouvoir rencontrer des œuvres. Et c'est très important que ces dispositifs soient mis en place. Là, du fait que c'est une obligation, c'est vrai qu'il y a un désir à susciter auprès notamment des maîtres d'œuvre et d'ouvrage pour que ces dispositifs soient mis en place, un temps d'accompagnement pour que les projets soient le plus en lien avec le contexte qui va les accueillir. Là, nous, on intervient aussi à ce niveau-là. Il y a eu des outils qui ont été créés, il y a des dispositifs que l'on relaie, notamment le CNAP, qui a fait un très bon guide du 1% et de la commande publique, que l'on essaie de relayer au maximum. Voilà comment est-ce que nous, on intervient sur ces dispositifs.
Alors, puisque l'heure tourne, on va être obligé de condenser un peu. Quand même, il y a sur des grandes thématiques, on va dire, voilà, je ne sais pas si le terme est propre, mais qui agitent ou qui secouent notre société actuelle, j'aimerais savoir ce que propose Devenir Art. Alors, la première, c'est la place des femmes. Des femmes artistes ou professionnelles de ce secteur. Est-ce que vous avez des actions particulières qui existent ?
Alors, dans le cadre des dispositifs que l'on crée ou des programmes que l'on met en œuvre, l'objectif, c'est vraiment d'être sur une parité la plus exemplaire. C'est pas toujours facile, pour plein de raisons. Donc là, on va notamment créer un projet qui s'appelle Document d'artiste, qui existe sur d'autres territoires, et nous, on va le porter en incubation pour qu'il existe en région. Donc notre objectif, c'est que là, ce dispositif qui vise à documenter le travail d'artistes et à les rendre visibles par le biais d'un site internet et d'un certain nombre d'actions sur le terrain, la parité, elle soit chiffrée, quoi. Donc s'il y a une année, il y a un nombre... impair d'artistes qui sont sélectionnés pour être pour que leur profil soit mis en valeur par le biais d'une documentation riche. Il y a par exemple, je sais pas, 5 femmes pour 4 hommes, pour 6 hommes, pardon, l'année d'après, on soit sur un dispositif inverse pour que la parité soit rééquilibrée, ou en tout cas faire au maximum que ce soit des chiffres pairs qui soient choisis aussi pour que cette parité soit effective d'année en année. On est membre du collectif HF aussi, qui est plus actif dans le champ du spectacle vivant. Mais voilà, notre coprésidente est très active dans ce collectif et on a vraiment pour ambition que les membres aussi de notre réseau, que les professionnels, ils se saisissent de des possibilités de rencontres, de travaux menés par cette association en s'y impliquant. On a aussi là, pour nos prochaines rencontres régionales, choisi d'angler sur cette thématique. Pardon. Et l'idée, c'est ensuite d'ouvrir une commission de travail sur ce sujet. La question de l'inclusion, plus généralement que de la parité homme-femme, hein, la représentation notamment des personnes racisées, ou en tout cas leur implication aussi dans les équipes de travail. Pardon. C'est des sujets qui doivent bénéficier en tout cas de plans d'action, et ça, c'est vraiment dans les commissions de travail qu'on va y réfléchir. Donc on va avoir une commission qui va être dédiée à cette question de l'inclusion, des conditions de travail, de la montée en compétences des acteurs du secteur.
Et l'écologie ?
On a une commission aussi qui travaille sur cette question du partage de ressources. Donc cette commission, elle a décidé très simplement d'aller à la rencontre de 4 espaces ou projets ou structures qui mettent en place des dispositifs qui permettent de mutualiser, de partager, de valoriser des ressources sous-employées. Donc ça peut être de la matière première. Pardon. Des espaces, des employés, des machines-outils. Et donc, tous les 3 mois, grosso modo, une visite rencontre chez un de ces porteurs de projets pour le valoriser. Une fiche de présentation qui va être éditée et diffusée sur notre site internet pour faire connaître ces projets, leur donner plus d'ampleur et permettre aux acteurs du secteur de s'en saisir pour participer à un changement de modèle, hein, employer moins de matériaux, mettre en commun des moyens pour travailler de façon moins impactante pour l'environnement.
Et donc vous parliez aussi d'inclusion, donc je me demandais s'il y avait des projets en cours ou sur le, comment dire, autour des personnes qui ont un lien avec la psychiatrie, ou en tout cas qui ont des problématiques liées à la santé mentale, donc par exemple tout ce qui est art brut, des choses comme ça. Est-ce que c'est, il y a des projets qui existent?
Alors, on a des... Alors, le réseau travaille pas spécifiquement, en tout cas, voilà, on porte pas des projets nous-mêmes, des acteurs qui peuvent en porter. Là, je sèche un peu, savoir s'il y a des structures qui mettent en avant des projets d'art brut, ou si on a des artistes spécifiquement qui se revendiquent d'une pratique... serait sous le champ de l'art brut. Mais en tout cas, voilà, c'est des sujets, des disciplines auxquelles le réseau est ouvert.
Eh bien, merci Carmen Blin pour toutes ces informations sur le réseau des arts visuels. Alors, chers auditeurs, ce que vous entendez derrière ma voix, c'est un carnet sonore de Fernand Deroussen, voilà, qui est audio-naturaliste. Donc, nous sommes en Corée du Sud. Quel bel environnement sonore pour la minute agenda culturel, car je crois, Carmen Blin, que vous vouliez nous parler de 3 événements à venir.
Oui, tout à fait. Alors, la semaine prochaine, on organise nos rencontres régionales annuelles qui vont avoir lieu à Issoudun le mercredi 27 et le jeudi 28 avril. Donc, ces rencontres, elles vont avoir pour thématique justement l'inclusion, la coopération et puis la visibilité du secteur. Donc autour de tables rondes qui vont réunir des pros un petit peu de toute la France. On va avoir des ateliers aussi plus concrets. Donc par exemple pour les artistes, un atelier pour structurer la manière dont on se présente avec donc Stéphania Maeda qui est aux manettes pour le développement du projet Document d'artiste en Occitanie et qui a longtemps travaillé dans le champ de la formation pour les artistes. Un atelier aussi à destination plus des salariés sur les questions de repositionner son plan de communication. Et puis un atelier sur ces questions de comment changer de modèle de fonctionnement dans le monde des arts visuels pour être plus inclusif et en tout cas construire de meilleures conditions de travail pour les salariés autant que pour les artistes, les commissaires, les critiques qui travaillent sur des projets d'art contemporain. Et puis en juin, on va avoir un événement qui va réunir le CIPAC et la FRAP, donc je ne redétaille pas puisque je les ai bien présentés. Donc le 16 juin, un jeudi, on va avoir un temps d'information qui va présenter ses réseaux, sur quoi ils travaillent et leurs chantiers en commun. Donc ça va être à Tours. Et enfin, le samedi 2 juillet, on va organiser notre sixième navette de l'art, cinquième, je dis une bêtise, qui va être organisée en partenariat avec le réseau Tram, donc le réseau art contemporain francilien. Et donc on va faire une navette interrégionale. Donc toutes les informations vont bientôt être diffusées et vous pourrez aller voyager certainement entre Dreux et la région parisienne.
Donc, informations à retrouver, je suppose, sur votre site internet.
Exactement, www.devenir.art.
Voilà, et on peut vous suivre peut-être sur les réseaux sociaux aussi.
Exactement, sur Instagram, Facebook, LinkedIn.
Voilà, vous êtes partout, décidément. Merci, Carmen Blin, d'être venue dans La Méridienne sur Radio Campus Tours. Donc, chers auditeurs, cette émission touche déjà à sa fin, mais vous la retrouverez en podcast et en rediffusion aujourd'hui même à 17h. Voilà, je vous laisse en compagnie du carnet sonore de Fernand Desroussen, donc audio naturaliste, et nous sommes en Corée du Sud à la fin de l'été. Bonne journée à tous et à toutes.